Nous voulons mener une vie de bénédiction. Nous voulons être bénis. Nous voulons que notre vie soit une vie comblée en tant que chrétiens. Nous désirons que finalement nous soyons, non pas, on ne demande pas trop à Dieu. On ne demande pas à Dieu d'être des milliardaires. C'est pas ça qu'on demande. On demande juste que, voilà, nous vivions une vie tranquille. Avec les petites choses de la vie, agréables, des petites réussites dans la vie. C'est ce qu'on demande, on veut la bénédiction. Et ce qui est bien, c'est que Dieu aussi veut la bénédiction. Il veut nous bénir. Il veut nous combler. C'est pas un Dieu qui nous veut du mal, au contraire, bien au contraire. Dieu nous veut du bien. Et donc, le rendez-vous entre nous qui aspirons à la bénédiction et Dieu qui veut nous bénir, le rendez-vous devait être normalement un succès. Mais vous savez que c'est pas le cas. Je voudrais peut-être répondre justement à cette question, comment vivre une vie chrétienne bénie? Je ne vais pas donner une réponse. Je vais proposer une piste de réflexion. Je trouve dans la Bible un personnage qui a vraiment maille à partir avec l'histoire des bénédictions, qui pourrait peut-être nous accompagner à travers sa vie ce matin pour nous aider à un peu saisir ces choses-là. C'est Jacob. Et je vous propose, avant la prière, de lire simplement la partie du texte que j'ai... Mais pourquoi est-ce que c'est toujours des drôles de coïncidences avec mes textes? C'est juste, mais seulement apparemment, j'ai choisi le mauvais verset. C'est pas avec le 25 qu'il faut commencer alors. Un peu plus tôt, décidément. Moi et mes textes, hein. Voilà, c'est ça. C'est combien ça? C'est le verset combien? C'est le 24. Ah, chez moi c'est 25 et chez vous c'est 24. Ben ouais. Si vous voulez, c'est comme ça qu'après on se brouille. C'est important qu'on commence au verset 24. Voilà, là, c'est bien. Merci. Jacob demeura seul. Suivez bien l'histoire. Hein. C'est une histoire qui se laisse lire, mais qui est pleine d'enseignements. Même pour vous-même, hein, à titre personnel, en le lisant, vous allez voir, il y a des petites connexions qui vont se mettre en place. Vous allez vous dire, ah oui, tiens, il y a ça aussi comme instruction. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il le maîtrisait, qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboutur de la hanche, et l'emboutur de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi me demandes-tu ton nom ?» Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvé. » Le soleil se levait pendant lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Et puis, il y a cette petite allusion à l'histoire, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboutur de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboutur de la hanche au tendon. Prions. Ce que nous voulons, ce que nous désirons, Seigneur, c'est d'être de plus en plus près de toi. Parce que lorsque nous nous rapprochons de toi, lorsque nous avons cette intimité profonde avec toi, lorsque nous te connaissons bien, alors toutes les promesses que tu fais s'accomplissent dans nos vies. La bénédiction que tu nous donnes, que tu prévois pour nous, se réalise aussi. Apprends-nous, aide-nous, Conduis-nous dans cette méditation ce matin autour de ce besoin de comment vivre une vie chrétienne bénie. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. L'histoire de Jacob est une histoire très importante pour la manière dont Dieu va constituer le peuple d'Israël. Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob va être vraiment celui à partir duquel on va avoir enfin un peuple, le peuple hébreu. Mais je ne vais pas revenir sur la vie, sur tous les faits de la vie de Jacob, puisqu'il y a tellement de choses à dire en ce qui le concerne. J'aimerais peut-être ce matin évoquer juste cet épisode de sa vie, cet épisode juste pour tenter la réflexion autour de, finalement, la bénédiction, comment on peut vivre une vie bénie, une vie chrétienne bénie. Le chapitre 32, qui est pris sur cette partie de la vie de Jacob, est un tournant, on arrive à un tournant décisif de la vie de Jacob. C'est quelque chose de tout nouveau se passe là. Pour la première fois de sa vie, Jacob va devoir faire face à lui-même. Pour la première fois de sa vie, Jacob va devoir faire face à Dieu. Face à lui-même et face à Dieu. Face à lui-même, il découvre sa faiblesse. Sa faiblesse dans l'adversité. Il découvre qu'il a en face de lui un frère. Une vieille affaire qui n'a pas été réglée. Ésaü. Il rentre dans la terre où Dieu l'avait dit, je te bénirai. Son frère l'attend. Il y a une vieille histoire qui n'a pas été arrangée. Son frère marche contre lui. Il marche pour aller lui faire la guerre. Son frère veut le battre, veut le tuer. Et Jacob, il se retrouve là, il se rend compte à quel point il est faible. Il ne sait pas se battre contre son frère. Il sait que s'il y a une guerre, il va être massacré. Il va mourir. Il se retrouve face à lui-même, face à cette faiblesse-là, devant son frère. Jacob se retrouve aussi face à son passé, à ce passé, le sien, qui le conduit aujourd'hui à cette impasse dans laquelle il se trouve. Il est face à cela. Il est face à ce passé. Vous savez, Jacob, ça veut dire le supplanteur. Celui qui vient supplanter, prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est l'arnaqueur, le roublard, le magouilleur. Jacob se retrouve face à ce passé-là d'un homme qui a réussi par ses magouilles. Il est face à ce passé-là aussi. Mais il se trouve aussi face à Dieu. Face à Dieu. Il se rend compte qu'il a fait fausse route. Toute cette vie qu'il a vécue avec Dieu, ce n'était pas comme ça qu'il fallait qu'il vive avec Dieu. Il a cru qu'il était dans la bonne direction, dans la bonne voie, mais il n'était pas dans la bonne voie. Il n'était pas en train de marcher avec Dieu dans le bon sens. Il faisait fausse route avec Dieu. En fait, il n'a jamais connu Dieu. Alors qu'il était avec Dieu, alors qu'il faisait les choses pour Dieu, alors qu'il invoquait Dieu dans tout ce qu'il faisait, alors qu'il suivait un schéma de promesses que Dieu lui avait fait. Jacob se rend compte que... Je vais juste remonter pour vous montrer que à quel point le type est vraiment dans la détresse. Tu veux bien montrer Genèse chapitre toujours 32. Regardez la prière qu'il fait. C'est la prière d'un homme contrit. Un homme qui se rend compte qu'il est dans l'impasse. Le suivant, c'était 10 et 13. 32, 10 et 13. Regardez ce qu'il dit s'adressant à Dieu. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme de camp. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il fit ce qu'il avait sous la main. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Un homme contrit qui se rend compte qu'il est dans l'impasse. Pourtant, dit-il, je suis trop petit par rapport à tout ce que tu m'as fait. Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas. Et pourtant, tu l'as fait. Je suis un malhonnête. Pourtant, tu m'as comblé. Un homme désespéré et brisé. Dans nos vies, parfois, en tant que croyants, il peut arriver que nous fassions fausse route. Il peut arriver que nous pensions être dans le vrai, dans le bon, alors qu'on est dans l'erreur. Peut-être c'est bien, à un moment donné, de s'auto-analyser, de voir où est-ce qu'on est, sur quel chemin nous sommes avec Dieu, et corriger le tir. Dans nos vies, parfois aussi, nous marchons avec Dieu, nous croyons que nous avons un ancrage solide avec lui, alors que ce n'est peut-être parfois qu'un ancrage social. Nous croyons en Dieu, mais à la manière dont on croit dans la société. Je donne un exemple. Parfois, allez, on se dit, voilà, je vois ça souvent dans les jeunes couples, ils s'aiment, mais tu leur demandes, quelle est votre façon de vous aimer? Et tu vas entendre des réponses qui font penser qu'en fait, ce n'est pas s'aimer selon la parole de Dieu, mais s'aimer selon le modèle social dans lequel on se trouve, tout simplement. Et là, il y a un problème, parce que c'est au nom de Dieu, et pourtant, on n'a pas bien compris en quoi consiste le véritable amour selon Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais peut-être ce matin, ça peut nous aider tous à réfléchir. Comment vivre une vie chrétienne bénie? Jacob avait la bénédiction. Au moment où il courait, au moment où il avait fait la bêtise qu'il a fait, qu'il s'enfouillait, il avait déjà reçu une parole de Dieu qui dit « je te bénirai jusqu'à ton retour, je te bénirai ici ». Au moment où il rentre, il revient de chez Laban. Il rentre sur la terre de Canaan. Il y a des anges qui le reçoivent. L'histoire de Jacob est une histoire de bénédiction. Jacob savait que Dieu allait le bénir. Mais Jacob n'a pas attendu que la bénédiction vienne de Dieu. Jacob va magouiller, va bidouiller, va chipoter, va tricher pour avoir d'abord le droit d'aînesse sur son frère. Vous connaissez cette histoire. Ensuite, il va aussi encore avec sa maman magouiller pour avoir la bénédiction d'Isaac, son père. Et c'est de là que sa vie devient un vrai cauchemar. Parce que d'arnaqueur, lui-même va se faire arnaquer par son oncle Laban, avec les deux femmes, les deux filles. Je ne vous parle pas avec les histoires des moutons. Lisez, c'est un texte très intéressant, avec les taches, les moutons tachetés, les machins. C'est très intéressant. Il faut le lire, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a tout un jeu d'arnaque. Et puis, il s'en va. Et puis, voilà que Laban lui court après parce que il estime qu'il a menti, qu'il a volé les troupeaux. Enfin, bref. Bon, bref. Tout ça. Une vie de cauchemar. Pourquoi? Parce que la bénédiction qu'il a voulu avoir, il l'a obtenue par ses propres moyens. L'effet de cela, c'est que Jacob n'est pas un homme heureux. Si vous lisez le texte, vous voyez comment il s'exprime. Il n'est pas heureux. C'est un homme malheureux. Alors, venons-en au texte d'aujourd'hui. Le verset 24. Jacob, qui est rattrapé par son passé, par cette vieille histoire d'il y a 20 ans, son frère jumeau, à qui il avait volé les droits d'aînesse, avec cette bénédiction qu'il a volée à son frère, le voilà qui est confronté à ça. Il redoute la mort pour lui et pour sa famille. Et il a tenté des tas de démarches. Il a fait des tas d'efforts pour arranger l'affaire. Il a envoyé des présents, des cadeaux à son frère pour l'apaiser. Rien n'a marché, rien n'a fonctionné. Rien. Jacob est face à ça. Qu'est-ce qui lui reste encore à faire? Il tente une dernière chose. La dernière chose qu'il tente, c'est que il divise sa famille en deux, en se disant, au moins, on va tuer une partie, mais une autre partie survivra. Et puis, il envoie par coup des présents pour calmer son frère. Et lui, il se retire. Et c'est là qu'on commence. Jacob demeura seul. Seul face à lui-même, seul face à Dieu pour la première fois. Seul sans solution. Un vrai drame, n'est-ce pas? Quand on est avec les autres, quand on a des solutions dans la vie, on n'est pas encore si malheureux que ça. Mais comprenez par exemple quelqu'un qui tout d'un coup se retrouve seul. Une femme qui perd son mari. Un homme qui perd sa femme. Tous les amis s'en vont autour de soi. On reste seul. On n'a plus de perspective. Les solutions deviennent difficiles. On est souvent sans solution. Seul et brisé. Et ce qui est drôle, c'est que c'est dans cette solitude-là que l'histoire raconte qu'un homme vient vers Jacob. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme s'avance. Un homme vient pour lutter avec Jacob. Voilà un fait théologiquement inadmissible et incompréhensible. Surtout si nous devons reconnaître que cet homme-là, c'était Dieu. Ou l'ange de Dieu, ou Dieu. Comment est-ce que Dieu peut-il, venir sous la forme d'un homme, d'accord, Jésus-Christ, mais se battre, et pas seulement se battre, perdre, c'est ce qu'on raconte. Hein? Il vient, il se bat avec lui jusqu'à l'aurore, il lui casse la hanche, et puis il lui dit, écoute, ça va, laisse-moi m'en aller maintenant, ça va. Comment comprendre ça? Théologiquement, c'est inadmissible. Mais ça a du sens. Ça a certainement du sens. Osée, le prophète, parle un peu de Jacob. On peut regarder un peu ce qu'il dit de Jacob. Voilà ce qu'il dit. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. C'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété, la justice, espère toujours en ton Dieu. Et Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses, il aime le tromper. Bon, enfin, il y a le chevauchement hein, dans les textes, mon texte à moi et le texte. Prochainement, je te donne selon ma version à moi, parce que... Il y a des chevauchements dans le texte, mais c'est pas grave. L'essentiel est dans le texte. Qu'est-ce qui est essentiel? Vous voyez cette réalité que Jacob va lutter avec l'ange et il va gagner. C'est ce que l'ange va lui dire, quel est ton nom? Désormais, tu t'appelleras Israël, qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Est-ce qu'on peut vaincre Dieu? Est-ce qu'on peut lutter contre Dieu et gagner? Ce texte dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il fut vainqueur, pourtant il pleura. Pourtant, il lui adressa des supplications. Et Dieu lui a parlé. S'agit-il d'une bagarre au sens physique? C'est probable, puisqu'il y a la hanche qui est déboîtée. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. En fait, Jacob lutte pour la première fois avec Dieu. Il n'avait jamais été confronté à Dieu, jamais été face à face avec Dieu. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il est devant Dieu et qu'il doit faire face à tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est, arnaqueur, voleur, mais mauvais, tout ce qu'il est, il est là, face à face avec Dieu. Il est en but avec Dieu pour la première fois. Jusque-là, il avait marché de la mauvaise manière. Dieu était juste un prétexte dans sa vie. Ce n'était pas sa raison d'être. C'était juste un prétexte. C'est juste une raison, une occasion de faire les choses. C'est juste un statut, un titre. Dieu n'était pas le Dieu de sa vie. C'était juste un prétexte pour lui pour chercher la bénédiction par la force. La bénédiction que Dieu lui avait promise, Jacob l'a cherchée, il a cherché à l'arracher charnellement. Mais cette nuit-là, la confrontation avec Dieu apparaît comme la première rencontre qu'il fait avec Dieu. Jacob découvre le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, son père et son grand-père. Jacob découvre cette nuit-là que la bénédiction ne dépend pas de lui Jacob, de ses efforts, mais que la bénédiction dépend de Dieu. C'est Dieu qui rend possible la bénédiction. Il est non seulement celui qui donne la bénédiction, mais il est aussi le moyen par lequel on est béni. Jacob n'avait pas compris ça. Il avait juste compris que Dieu lui avait donné la bénédiction. Mais pour la saisir, il avait cru que c'était lui qui devait le faire par ses propres efforts. Nous sommes souvent comme ça dans nos vies. Dieu, nous savons qu'il veut plein de choses pour nous, mais on ne lui demande pas de le faire avec nous, de le faire pour nous, de réaliser cela par lui. On ne recourt pas toujours aux moyens de Dieu pour atteindre cela. Jacob va mentir, va magouiller, va arnaquer. Ce n'est pas les moyens de Dieu. C'est difficile de pouvoir accéder à la bénédiction de Dieu en utilisant les moyens de Dieu. Mais il faut attendre aussi que Dieu agisse, prendre la patience que Dieu agisse et faire les choses qui honorent Dieu pour atteindre la bénédiction que Dieu nous donne. Imaginez un élève, un étudiant qui sait que Dieu va le bénir, bénir son examen et qui va tricher. On va se dire, hein? Et si surtout il ose dire après, j'ai réussi parce que Dieu, gloire à Dieu, Dieu m'a aidé. S'il le dit à haute voix et qu'il le dit devant tout le monde en disant, j'ai triché, mais c'est quand même Dieu qui m'a aidé à réussir. Il y aura juste un petit souci. Quelque chose qui tourne par rond là. Jacob réalise que la bénédiction dépend de Dieu. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la chair, mais c'est dans la dépendance avec Dieu. Alors, je peux comprendre que dans cette bagarre, au fur et à mesure que Jacob réalise qui est en face de lui, il se dit, Ah, je ne te lâche pas. Non, 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 non. Il faut que tu me bénisses. Parce que c'est la chose qui me manque le plus dans toute mon existence. Parce que c'est ça qui est la source de mon malheur. Il faut que tu me bénisses. Je ne te lâche pas que tu m'aies béni. Et voyez la bénédiction que Jacob reçoit. Jacob reçoit une bénédiction qui change, pas seulement son nom, mais qui change son destin. Tu ne t'appelleras plus l'arnaqueur, le supplanteur, le malhonnête. Tu t'appelleras désormais celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Le passé était noir, négatif, plein d'incertitudes. Mais mon présent, le présent de Jacob est fait de la présence de Dieu et des victoires. Face à Ésaü, Jacob n'a plus peur. Il sait que Dieu va être là. Il va lutter avec lui et il va gagner. Proverbes chapitre 10, verset 22. J'espère que je ne me suis pas trompé et j'espère qu'il n'y a pas de décalage entre nous encore. Bon, c'est le texte, un des textes que j'aime beaucoup qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous connaissez ? Chouette, chouette. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jacob avait reçu la bénédiction de son père, Ésaü. Qu'est-ce que je viens de dire? Ésaü. Merci, merci de me suivre attentivement. Isaac. Et cette bénédiction-là n'est pas ce qu'il a donné, qui lui a donné du bonheur. C'est pas ce qui a été source de son bonheur parce qu'il a volé cela. Ici, Dieu va lui-même se charger de cette bénédiction dont il avait besoin depuis toujours. Cette bénédiction pour laquelle il avait menti, il avait triché. Maintenant, il la reçoit. Ce n'est plus Isaac qui lui donne la bénédiction, c'est Dieu lui-même qui lui donne la bénédiction. Jacob restaure ainsi sa relation avec Dieu. Il se met sur la route, sur la bonne route. Cette bonne route qui consiste à vivre non pas comme on veut, parce qu'on a la promesse de Dieu. On ne vit pas comme on veut parce qu'on a la promesse de Dieu. Je suis chrétien, je fais tout ce que j'ai envie. Après tout, je m'en fous parce que je suis chrétien. Je peux continuer avec mes sales habitudes, je peux continuer avec mes vices, je peux continuer avec tout ce que je suis. Parce que je suis chrétien, c'est pas grave. Non. Jacob découvre que vivre avec Dieu, c'est vivre selon ses principes, selon sa volonté qui est contenue dans sa parole. Alors ce matin, qu'est-ce que ce texte peut avoir comme piste de réflexion pour nous, pour que nos vies soient des vies bénies? J'aimerais peut-être juste développer deux pistes de réflexion ce matin. Première piste de réflexion, si je veux que ma vie soit bénie, il faudrait que je développe une vraie intimité avec Dieu. Vous savez, se trouver seul face à Dieu. Vous avez remarqué c'est que comment Jacob a appelé le lieu où il a rencontré Dieu? Il a appelé ce lieu Péniel. J'étais face à face avec Dieu. L'intimité, c'est se trouver face à face avec Dieu. Nu, misérable. C'est pas être face à face avec Dieu dans un rapport d'égalité. C'est être face à face avec Dieu dans toute ma misère, dans tout ce que je suis, avec tous mes impasses, avec tous mes défauts. Ce n'est que là que je commence ma bénédiction. Jacob a restauré la situation à partir du moment où il s'est trouvé pour la première fois de sa vie seul face à Dieu, nu et misérable. Venir dans cette intimité, non pas dans une relation où j'ai des choses à faire valoir à Dieu. Mais dans cette relation, je dis, je n'ai rien à faire valoir. Jacob dit, je suis trop petit pour tout ce que tu m'as donné. J'en vaux pas la peine. Non. Se mettre en face de Dieu. Première chose importante, développer cette intimité dans laquelle je viens devant Dieu, me reconnaissant comme je suis, avouant ce que je suis, ne cachant rien, ne me cachant pas moi-même et ne cachant rien devant Dieu. Et dire, Seigneur, je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là avec toi. J'aimerais que tu me parles. J'aimerais que tu me guides. J'aimerais que tu prennes ma vie. J'ai des tas de trucs. J'ai honte de pouvoir le dire aux gens, mais je peux le dire à toi. Des trucs que je ne suis pas trop fier de moi, mais je peux le dire à toi. Je peux, Seigneur, te confier cela. Être prêt à engager une lutte avec Dieu, une lutte de ma conscience qui se bat pour maintenir des privilèges, pour essayer de rester moi, avec mes droits, avec mes forces, avec tout ce que je suis, et dire non, non, me battre contre ça jusqu'à ce que Dieu prenne l'autorité de ma vie, dirige les moindres points de ma vie, qui est plus rien qui lui soit caché. Que ma faiblesse devienne une force dans le Seigneur. Deuxième chose, je ne vais pas trop développer, mais que le Seigneur conduise chacun d'entre nous. Deuxième chose, toujours dans cette idée de vivre face à face, nous avons parlé en termes d'intimité, mais le face à face aussi dans une démarche où je m'approche, où je vis avec Dieu au quotidien, dans tout ce que je fais. J'ai juste laissé des questions avec lesquelles peut-être chacun peut réfléchir. Voilà mes questions. Où est Dieu dans ma vie? Dans chaque moment de ma vie, où est-il? Est-ce qu'il est face à moi? Ou il est derrière moi? Ou il est à côté de moi? Où est-il? Est-ce que c'est Dieu qui est toujours mon interlocuteur chaque jour de ma vie, à chaque moment, où ce sont les autres, c'est ma vie, c'est mes pensées, c'est moi. Est-ce que chaque jour, je vis comme si Dieu était devant moi, en train de me parler, avec qui j'interagis, dans les choix que je fais, dans les mots que je dis, dans les réflexions que je fais? Est-ce que je prends le temps de dire, tiens, j'ai envie de faire ceci, mais je vais d'abord parler avec Dieu. Même c'est tout bête, hein. Même c'est juste pour acheter un biscuit, hein. Moi, j'aime bien les biscuits scottish, comme ça, les biscuits, comment on les appelle, là. Oh, tu connais, c'est chouette, ça. Les showbread, ça, c'est mes préférés. Mais je dis ça parce que je me dis, et s'il m'arrivait de décider d'acheter les showbread, est-ce que je pense? Est-ce que j'ai la pensée de Dieu? Est-ce qu'il est mon interlocuteur au moment où je fais cette démarche? Vous avez dit, Gaston, t'exagères, hein? Un biscuit, tu penses à un biscuit, tu achètes un biscuit, tu commences pas à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses, j'achète un biscuit? Je ne parle pas comme ça, je ne dis pas, faut pas tomber dans ce piège où des gens qui, dès que tu lui poses une question, il dit, attendez, je vais d'abord aller parler avec Dieu et puis je vais vous répondre. C'est pas de ça que je parle. Comprenez-moi bien, hein? Faut pas qu'on tombe dans des trucs extrémistes, stupides, enfin, pardon, pour ceux qui le font, c'est pas stupide. Mais faut pas qu'on tombe dans des pièges pareils. Le face-à-face auquel je fais allusion, c'est cette pensée constante de Dieu avec moi. C'est cette présence de Dieu chaque jour avec moi. Cette conscience qu'il est là. je suis. Qu'il entend les mots que je dis. Qu'il voit les pensées que j'ai. Qu'il connaît mes intentions. Et dans le respect profond pour lui, je ne fais pas n'importe quoi de ma vie. Je ne dis pas n'importe quoi. Je n'agis pas n'importe comment. Parce qu'il est là avec moi. Parce que je suis face à face avec lui. Est-ce que je me bats avec lui par rapport à mes faiblesses? Je vous ai déjà parlé de mon problème avec la colère. J'étais colérique. J'ai dû me battre avec Dieu pour qu'il me délivre de la colère. Beaucoup de gens aujourd'hui ne reconnaissent même plus leurs défauts. Nous sommes dans un monde où tu n'as pas le droit de me dire que j'ai des défauts. Tu n'as pas le droit de me dire que je suis quoi. Non! Je suis ce que je suis et tu n'as qu'à te taire. C'est peu importe qui je suis. Et pire encore, ce que je suis, tant pis! Même Dieu ne me changera pas. Tant pis! Je suis comme ça, c'est tout. Alors ça me pose beaucoup de problèmes, ça peut me causer des séparations avec des amis, ça peut me causer des problèmes à mon travail, ça peut me causer des tas de choses, des malheureux autour de moi, des gens malheureux à cause de moi, mais je m'en fous. C'est tout, c'est comme ça. Souvent c'est aussi parce qu'on se dit, ben, comment je vais faire pour changer? Je suis comme ça, comment je vais faire pour changer? Mais lorsque je considère le face-à-face avec Dieu. Tout est possible. Je peux changer. Dieu peut me changer. On dit souvent que les gens ne changent pas. Faux. En Christ, les gens peuvent changer. Des gens mauvais peuvent devenir des gens bons. Des gens impatients peuvent devenir des gens patients. Des gens qui n'avaient aucune miséricorde peuvent devenir des gens pleins de compassion. C'est possible. Mais dans le face-à-face avec Dieu. Et dans le face-à-face, ça veut dire que je n'ai pas besoin que les autres me disent « C'est moi et moi tout seul. » Vous savez, nous avons des problèmes parfois à nous pardonner les uns les autres. Et nous cachons parfois nos rancœurs, nos rancunes, derrière des actes qui n'ont plus rien à voir avec la cause pour laquelle on a eu des problèmes. Vous connaissez ces vieux couples qui s'engueulent et on ne sait plus pourquoi ils s'engueulent en fait. On ne sait plus, mais ils s'engueulent tout le temps. Mais quand on commence à creuser, on va trouver là des choses qu'on ne sait pas pardonner. Des choses qu'on n'a pas pardonnées à l'autre et qu'on n'a jamais dit. Il suffit à ce moment-là de commencer à gratter, et on se rend compte, tu sais, je t'en veux. Parce qu'un jour, tu avais dit ça. Et rien que de le dire, si c'était ça la source du conflit, la réconciliation est possible. La paix peut revenir. Nous avons du mal parce que nous n'acceptons pas ce que nous sommes. Nous n'acceptons pas nos défauts. N'acceptons pas le mal qui est en nous. Mais nous devons le reconnaître. Et dans le face-à-face avec Dieu, supplier Dieu. Dire comme Jacob, délivre-moi. Est-ce que je lui laisse me briser? Est-ce que je laisse Dieu me briser, me contraindre, m'emmener à la repentance, à la conscience de qui je suis véritablement pour trouver le chemin de la délivrance? Est-ce que je laisse Dieu me briser pour mieux dépendre de lui? Quelques pistes de réflexion. Le destin de Jacob change quand il rentre en relation véritable avec Dieu, quand il prend sa place véritable dans le projet de Dieu. tu seras appelé désormais Israël. Et ce n'est pas simplement qu'un nom. Ce n'est pas simplement qu'un titre. C'est son destin. Celui d'être le père à partir duquel le peuple va se constituer. Il prend sa place de serviteur. Et pour cela, il devait se soumettre à Dieu. La bénédiction qu'il a reçue, je vous l'ai dit, est plus grande que celle qu'il avait reçue de son père Isaac. Il a la promesse du succès pour son retour en Canaan. Et il n'a plus peur de son frère parce qu'il sait que Dieu est à ses côtés. J'ai juste pris ce texte, le dernier, Deutéronome 11, 26 à 28, parce que je voulais à la fois montrer que c'est l'intention de Dieu, la bénédiction, mais en même temps, il y a une route à faire pour la bénédiction. Deutéronome 11, 26 à 28, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie, vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Dieu, dans son intention, veut nous bénir. C'est l'intention profonde de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu met la bénédiction devant nous. Il le place sur notre route. Il le place sur notre chemin. La bénédiction devient quelque chose de normal dans notre chemin en tant que chrétien. Il faut pas la chercher au sens de courir après les choses. Il y a juste une clé. Si vous obéissez, c'est tout. Si nous faisons la volonté de Dieu, si nous nous inscrivons dans son plan. Qu'est-ce qui a fait faiblesse chez Jacob? C'est qu'il s'est détourné de la voie que Dieu a tracée pour lui. Pourtant, la bénédiction était là. Alors ce matin, j'aimerais simplement que nous puissions réfléchir à cela, que nous puissions regarder à cela en se disant, voilà, qu'est-ce que Dieu veut de moi encore? Nous devons prendre conscience que Dieu veut nous bénir pleinement et que notre bénédiction dépend de la qualité de la relation que nous avons avec Dieu. Vous voyez, le piège dans lequel le peuple d'Israël est tombé avec la bénédiction, c'est qu'ils ont cru qu'il suffit de respecter un ensemble des règles. Et on est béni en conséquence. Regardez la prière du pharisien. Seigneur, moi, je suis bien, je suis pas comme ce péager là, hein, parce que moi, Seigneur, je jeûne autant de fois, je donne ma dîme à ceci, et je fais ceci, et je fais attention à cela, et je. Et l'autre là à côté était tout malheureux, il n'osait même pas regarder, il dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Et que dit la Bible? Cet homme-là est rentré chez lui justifié, c'est-à-dire trouvé juste aux yeux de Dieu. Et l'autre là avec ses je, il est rentré chez lui, bien sûr toujours dans son orgueil, mais il était complètement à côté de la plaque, il n'était pas avec Dieu. La bénédiction est sur notre route quand nous développons une vraie intimité avec Dieu, un vrai face-à-face avec Dieu. Puisse le Seigneur nous aider dans cette démarche. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Éclaire-nous par elle. Je sais que sur la bénédiction, il y a des tas de choses à dire, mais j'aimerais que toi-même, tu continues le reste par le Saint-Esprit. Enseigne-nous, enseigne-moi. Au nom de Jésus. Amen.